Radio Fuse sur 107.5 et nous sommes vraiment très heureux de vous retrouver avec notre nouvelle émission « Le goût des autres ». On y parle de celles et ceux qui font vivre notre territoire, des événements à ne pas rater, des sorties à ne manquer sous aucun prétexte. On y partage des idées aussi pour réfléchir ensemble autour de sujets de société. On vous propose dans cette émission des interviews, des reportages, des billets d'humour et d'amour, parfois. Bref, on parlera de vous. Et nous allons parler des enfants, plus précisément de ce que les enfants nous enseignent. C'est le titre du dernier ouvrage de Sophie Marinopoulos, psychologue et psychanalyste spécialiste de l'enfant et de la famille, qui organise aussi une rencontre le 14 mars prochain à Lombrières. Elle est là aujourd'hui avec nous dans nos studios. Bonjour Sophie Marinopoulos.
Bonjour.
Et bienvenue.
Merci.
Vous êtes aussi très engagée dans la vie locale puisque vous êtes élue à la mairie d'Uzès, déléguée à la famille, citoyenneté et enfance, à la CCPI, aussi déléguée du suivi social, peut-être je me trompe dans toutes les...
C'est ce qu'on appelle la convention territoriale.
Voilà, je savais que c'était plus précis avec vous. Et vous êtes également fondatrice des Pâtes au beurre, mais je vous propose qu'on en parle dans un deuxième temps de tout cet engagement que vous avez dans la cité. Là, j'aimerais que vous nous parliez plus précisément donc de votre dernier livre, Ce que les enfants nous enseignent. Et vous, c'est très intéressant cette phrase que vous nous dites d'emblée quand on retourne ce livre, évidemment pour lire la quatrième de couverture. Les enfants ont été mes enseignants et ils m'ont conduit sur le chemin du questionnement, de l'inconfort, de la surprise, mais aussi de la joie et de l'émerveillement. Parce que ça fait des années que vous travaillez avec les enfants. Et là, avec ce livre, quel est le message que vous voulez nous faire passer à nous, les parents de ces enfants?
Alors, c'est un message que je veux faire passer aux parents, mais beaucoup plus globalement à nous tous, à la société en général. Et j'ai envie de dire à chacun, ralentissez, regardez, observez nos tout-petits et vous comprendrez qui nous sommes et quels sont nos besoins fondamentaux. Et peut-être que ça sera le moment, à leur image, d'avoir le courage de se questionner sur ce qui se passe aujourd'hui. Parce que les enfants, les bébés, les tout-petits en particulier, ils sont extrêmement courageux. Ils sont courageux parce qu'on ne peut pas grandir si on n'accepte pas de quitter ce qu'on connaît pour aller vers ce qu'on ne connaît pas. Ça, c'est un pari, ça, c'est un défi et ils le font. Et ils le font en confiance. C'est leur deuxième grande qualité. C'est-à-dire qu'un bébé humain, nous le savons tous, ne peut pas se débrouiller tout seul. Nous sommes une espèce quand même très particulière. On a besoin d'un autre. Donc ce qui nous caractérise et ce qui nous définit, ce sont les relations. Il faut prendre soin des relations, il faut prendre soin des liens. Il faut d'emblée les chérir et il faut prendre appui sur l'autre. Donc c'est l'engagement dans l'altérité. C'est la préciosité de la rencontre avec un autre que soi. Et ça, les bébés, les enfants plus grands, le portent avec justement une... C'est une démonstration de nos qualités, j'ai envie de dire humaines, qui prennent appui sur notre vulnérabilité. Nous naissons vulnérables puisque nous naissons dépendants. Et ça, c'est quelque chose qu'on a perdu de vue dans notre société. Nous sommes une société de méfiance, de défiance. L'altérité, ça devient presque un gros mot dans notre individualisme effréné. Le temps, bien sûr, il n'est pas question d'en perdre. Donc, on court. On ne sait plus vraiment pourquoi on court, mais on court. Et beaucoup de parents me témoignent de cette douloureuse question. Ils se disent, je sais que ça va trop vite, je ne sais pas comment ralentir.
Oui, parce que la question, elle est là aussi avec ces enfants. Il faut prendre le temps de la lenteur de l'apprentissage. L'apprentissage, ça ne se fait pas en un coup de cuillère à peau. Et il faut le temps de se tromper, de revenir, le temps de l'attention aussi. Et c'est vrai que dans cette vie, les parents doivent venir vous voir en disant mais comment je fais? Je speed le matin pour l'école, entre midi et deux, si il revient à manger, je speed aussi. On speed tout le temps en fait.
Oui, alors c'est vrai que les enfants nous mettent face à peut-être quelque chose qu'on n'a plus envie de voir, c'est que l'enfant, c'est un adulte en, ce n'est pas un adulte en miniature, c'est un adulte en devenir. On a tendance à penser que s'il s'est tourné la clé dans la porte de la serrure, il est capable de le faire et de rentrer tout seul de l'école. C'est pas tout à fait ça. Il y a toute une construction affective, émotionnelle et tout un besoin relationnel, une fois encore, qui est au cœur du grandir de l'enfant. Donc, nos tout-petits et même nos plus grands, ils ont besoin, pour s'engager dans le monde, pour le comprendre, pour lui donner du sens, de faire des expériences. C'est absolument central pour eux. C'est-à-dire, il faut regarder un bébé qui tripote une ficelle. Mais c'est dingue, il fait un nombre de concepts qu'on ne peut même pas imaginer et il est en pleine délibération. Donc là déjà, autoriser un bébé à faire des expériences, lui laisser le temps de faire les expériences, c'est le rendre acteur de la connaissance. Ça va beaucoup lui servir quand il ira à l'école. Parce qu'il ne verra pas la connaissance et le savoir comme oh là là, le truc qu'il faut ingurgiter et avaler. Il le verra comme de la pâte à modeler, comme un jeu de pouvoir toujours se dépasser et de comprendre ce qui est en train de lui arriver. Donc, l'enjeu, il est énorme pour moi. Et c'est pour ça que le livre, je me suis dit maintenant, il est temps. 40 ans avec eux, 40 ans à leur côté, encore récemment avec un petit patient qui aujourd'hui est un adulte, je lui disais, mais tu sais, on a grandi ensemble. J'ai grandi en tant qu'adulte, j'ai grandi en tant que professionnelle. Certes, j'ai fait mes études, j'ai fait mes années, on fait 8 ans, comme ça, à la fac, super, on apprend plein de choses. Mais après, tout commence. Et tout commence dans la relation et la rencontre vivante, humaine, avec nos patients. Et nos patients sont parfois des bébés, parfois ce sont des adultes. Je dis aussi souvent que les femmes m'ont beaucoup appris, puisque j'ai commencé à travailler en maternité, et sur la question du vacillement parental, et en particulier du vacillement maternel, j'ai évidemment été particulièrement atteinte parce que je voyais qui était bien loin de ce qu'on m'avait appris dans les cours. C'est aussi comme ça que j'ai créé la notion de déni de grossesse, parce que j'ai commencé dans un centre de planification et d'éducation familiale et je découvre des femmes qui viennent pour faire une IVG et on leur dit bah non, vous allez accoucher. Donc je me disais, mais dans quel monde je suis?
Oui, vous avez écrit un ouvrage d'ailleurs sur le sujet.
J'en ai écrit pas mal hein, dans les années 90 et puis 2000 et puis 2010. C'est vrai que j'ai pas mal écrit sur ce sujet et puis en parallèle j'écrivais beaucoup sur les enfants et je trouve qu'aujourd'hui là, maintenant, ce que les enfants nous enseignent correspond vraiment au message que j'ai envie de faire passer. Tout n'est pas fichu.
Oui, et vous dites, vous avez une belle image aussi, vous dites un enfant, un bébé, c'est 3 kilos en poids, mais en responsabilité, c'est une tonne. Et je trouve que ça image parfaitement le sentiment que peuvent ressentir les parents face à cette énormité, en fait, d'avoir ces êtres et on essaye de faire le mieux et on n'arrive pas toujours.
C'est des rencontres de vulnérabilité. Je souriais, mais face à cette... Avec beaucoup de tendresse, quand je voyais ces papas en particulier, très costauds et qui prenaient leur petit bout et qui avaient peur à la maternité de le faire tomber. On voyait toute la vulnérabilité du devenir parent, le poids en effet de la responsabilité face à ce petit être si léger et que bien sûr c'était pas son poids qu'allait empêcher le papa de le soulever. Mais c'était cette rencontre et c'est ça la vie des humains aussi. C'est ces moments où on est vulnérable, c'est ces moments où on vacille. Pour ça que dans l'ouvrage je parle de la verticalité, de qu'est-ce que c'est que tenir debout. Et où oui, un bébé a besoin pour apprendre à marcher, bien sûr, d'avoir cette motricité, cette maturité dans sa motricité, mais il a besoin du regard. Hein. Il a besoin de « waouh, super, hein, tu t'es mis debout », etc. C'est-à-dire qu'il a besoin de toute cette ambiance sonore, émotionnelle, qui lui traduit qu'il est grand, qu'il se débrouille bien, qu'on est fier, et surtout, qu'il est autorisé à grandir et qu'il est encouragé à grandir. Autoriser et encourager ses enfants, c'est deux axes très importants. Ça paraît très simple, mais c'est pas si simple de les autoriser à partir, à s'éloigner, à disparaître. Les parents d'aujourd'hui sont vite dans l'angoisse. Et ça, c'est un fléau pour nous, les adultes. C'est cette peur que l'on a pour nos enfants.
Pour nos enfants.
D'une manière excessive. Excessive. Et on demande à la technique de les surveiller. Donc
les
on
téléphones
met des
portables.
Babyphones, des babyphones avant, les caméras, etc. Et si on parle de santé psychique, là, du coup, de santé mentale, si on ne construit pas sa sécurité intérieure, si on n'arrive pas à prendre confiance en soi, oui, on va commencer à demander des systèmes sécuritaires. Et on voit se durcir une société. On va toujours avoir peur de l'autre. Vous voyez la question de l'autre. On ne sera plus dans l'hospitalité. Je pense que ça, ça nous parle aujourd'hui.
Ouais.
L'autre est dangereux, quel qu'il soit. Et donc, on va demander à être protégé, à être surveillé, à pouvoir surveiller l'autre. Donc, on voit tout de suite les dérives. C'est-à-dire, si on appauvrit notre psychisme, et le psychisme se construit pendant ses premières années de la vie, tout ne se construit pas avant 3 ans, avant 6 ans, etc. Mais il y a tellement de choses qui se construisent et qui nous servent dans la vie. Et nous le savons, nous les adultes, parce que quand même, ça nous arrive de ne pas nous sentir bien, de se demander ce qu'on fait là, est-ce qu'on a fait le bon choix professionnel, est-ce qu'on est dans la bonne famille, etc. Toutes ces questions existentielles, elles nous traversent. Donc, on voit que plus on a nourri notre psychisme, voilà, c'est comme le physique, hein, plus on est capable d'affronter les questions de la vie.
Et de répondre aux demandes aussi de ces tout petits bébés, qui sont très attentifs à la moindre de nos réponses, nos mimiques aussi. Ça compte beaucoup pour les enfants avec ces tout petits. Vous avez parlé d'une expérience justement de
le still face.
Voilà, le still face. Et ça, c'est vraiment quelque chose de sur lequel on doit vraiment réfléchir. Je vous laisse vous expliquer
le
concept.
Le still face, c'est une étude des années 50 où on propose à une maman qui est face à son enfant et qui joue avec son enfant. Donc voilà, il y a beaucoup de rire, beaucoup de sourire, beaucoup de connivence. Et puis à un moment, on lui demande de se tourner, de se mettre dos à l'enfant et de revenir face à lui et de ne plus avoir aucune expression. Aucune expression émotionnelle, ne répondra à rien. Donc cet enfant tente de réanimer sa mère, hein, il comprend pas trop. Et puis on le voit très rapidement, en quelques minutes, se désorganiser complètement. Donc psychiquement, il est en train de partir en mille morceaux. Et ça nous donne vraiment, moi je parle de cette société de still face, de cette foule still face. Et je me dis, mais comment nos enfants voient le monde qui les entoure, déjà le monde humain qui ne leur sourit pas, qui ne leur parle pas, aller dans les transports en commun, baladez-vous dans la rue, où il y a beaucoup d'incivilité, beaucoup de dureté. Peu de sourire, oui, et c'est pas un petit sujet, ça. C'est vraiment la rencontre, la reconnaissance. Je t'ai vu, je te porte un intérêt, je m'arrête pas forcément pour te parler, mais voilà, il y a quelque chose qui se passe. Oui, nos enfants aujourd'hui vivent dans une société de still face. Nos consultations sont devenues des still face. C'est rare quand même qu'on nous sourie quand on nous accueille parce qu'on vient pour un rendez-vous ou dans un bureau lambda. Hein. C'est devenu quand même une société qui s'est durcie. Et je me dis, mais est-ce que les enfants vont avoir envie de lever les yeux? Alors là, je vais reprendre le titre du réalisateur Gilles Vernet. Mais oui, pour avoir envie de lever les yeux, il faut leur dire qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'espoir, qu'il y a de l'espérance et qu'il y a de l'enviable, surtout. Et c'est la question de l'enviable qui est au cœur du sujet que je trouve que les enfants m'ont transmis aussi. Et peut-être qu'ils nous demandent, nos enfants, mais prouve-moi que c'est mieux, par exemple, en dehors de mon écran. Est-ce que c'est mieux de jouer au Lego que de regarder un écran?
C'est ça, alors, lever les yeux aussi des écrans, qui est une question cruciale. Vous parliez qu'il faut laisser les enfants tripoter une ficelle pendant des heures parce que tout se met en place. Et ça, si on voit vraiment dans les transports de plus en plus des gamins qui ont à peine un an et à qui on colle le téléphone portable, par exemple dans le train, où c'est vrai qu'on est toujours un peu crispé quand on voit des gosses arriver. Et s'il y a le téléphone portable entre les mains, on sait qu'on va être un peu plus tranquille. Mais c'est désespérant, en fait.
Oui, et alors, moi, je voudrais pas qu'il y ait d'erreur hein, dans ces propos-là. C'est que ce ne sont pas les parents qui sont fautifs. Hein. On n'est pas face à une bande de mauvais parents qui s'occupent mal de leurs enfants. On est face à une société qui ne supporte pas l'enfance de nos enfants. Et donc, on veut des enfants, mais on ne veut pas leur enfance. collectivement, c'est clair. Il y a eu pas mal d'articles ces derniers temps sur le No Kids. Il y a des restaurants qui interdisent l'entrée pour les enfants, de plus en plus. Il y en a répertorié un nombre conséquent en Belgique, mais aussi en France.
Oui, les hôtels aussi.
Il y a des hôtels, il y a des compagnies aériennes qui commencent à dire bah non, ça sera sans enfants. Enfin, voilà, je pense qu'il faut qu'on prenne la mesure de ce qui est en train de se passer et de ce qu'on est en train de refuser de cette enfance de nos enfants. Donc oui, on a une interrogation à avoir et c'est une interrogation que j'ai bien l'intention d'avoir quand on va faire venir Michel Desmurgés. Mais dans le livre, c'est pas un livre sur le développement de l'enfant, c'est un livre sur ce que les enfants nous enseignent, à savoir qu'est-ce qui nous est arrivé, nous qui sommes devenus adultes, pour qu'on ait oublié qui nous sommes et ce qui compte vraiment. Et ça, c'est une question que j'aborde à différents moments, mais ça peut être aussi à travers un sujet, par exemple, qui a été très parlé, qui a été l'autorité, par exemple, qui m'a horripilée. Je l'ai dit à chaque fois que j'ai eu la possibilité de parler dans une antenne, à savoir qu'on s'est retrouvé face à deux personnalités, alors on choisissait deux camps, et donc on était pour ou contre, punir, pour ou contre, mettre au coin, enfin bon, totalement inintéressant. La question de l'autorité est un sujet absolument passionnant, plein de douceur, que moi j'aborde dans un sujet qui s'appelle « Bordé ». Et je pars de mon enfance où quand j'étais enfant, j'étais une enfant très agitée et j'évoque comment ma mère le soir venait me border, c'est l'époque des draps, hein, il n'y avait pas encore la couette. D'ailleurs je pose la question, est-ce que l'autorité a disparu avec l'arrivée de la couette? Bon, on peut jouer un peu. Toujours est-il que non seulement elle me bordait le soir, mais surtout elle avait très vite compris, alors que c'était une mère inexpérimentée, j'étais pas la première, hein, j'avais un frère aîné, mais j'étais différente et chaque enfant construit un nouveau parent. Donc elle était inexpérimentée avec une enfant comme moi et elle a très vite compris instinctivement d'ailleurs qu'il ne fallait pas qu'elle soit débordée par mes débordements et elle a pris ce rôle de me border tout au long de la journée, c'est-à-dire que tous mes excès elle les bordait et elle savait les moments où il valait mieux que je sois dehors en train de courir ou me faire des jeux un peu répétitifs pour me calmer. Donc voilà, et c'est ça, border, c'est l'autorité. L'autorité, c'est autoriser. Donc je t'autorise à aller jusque-là parce que bah oui, t'as 3 ans, non, tu ne peux pas marcher tout seul sur le trottoir. Oui, je te donne la main. Et puis à 5 ans, bah, je sais que tu marches tout seul sur le trottoir, je te donne plus la main, je t'autorise. C'est une autorité, ça. Je t'autorise. Et donc, au fur et à mesure que l'enfant grandit, l'autorité se transforme, bien sûr. Elle accompagne l'enfant. Donc, j'aurais trouvé intéressant qu'on puisse aborder même la dimension philosophique. Hannah Arendt a parlé de l'autorité. C'est absolument passionnant. Donc, je ne comprends pas pourquoi on en a fait un sujet aussi idiot et binaire et qu'on l'a rendu stérile.
Oui, les débats, en fait, maintenant, à l'heure actuelle, sont plutôt des clashs. Donc, on est voilà. Pour ou contre. Comme ça, on est sûr que ça clash.
Voilà. Donc, c'est dommage parce que derrière, moi, si vous voulez, c'est pas tellement... OK, on veut faire de la vente, on veut attirer le public, parfait. Mais derrière, il y a des parents qui écoutent et ils sont complètement perdus. Ils ne se rendent même plus compte que mais l'autorité, autoriser, poser des limites, ça rentre aussi dans une représentation personnelle. C'est-à-dire que oui, tout le monde ne mène pas l'autorité de la même manière. Chaque famille est différente, chaque famille est singulière. Donc on va chacun poser ses limites et les enfants vont très vite apprendre la différence. Ils vont s'en plaindre hein, parce que chez la maman de la meilleure copine, on a le droit de faire plein de choses et que chez moi, j'ai rien le droit de faire. Et on peut lui dire que oui, c'est une excellente observation. Tout à fait, il a parfaitement raison. Cet enfant, c'est différent. Mais est-ce que la différence est une mauvaise chose? Est-ce qu'il ne faut pas rester droit dans ses bottes et continuer à porter les valeurs et la transmission qu'on a envie de donner à son enfant? Ce qui est, bon, bien sûr, là, on parle de situations tout à fait normales. Hein. Je ne rentre pas dans les histoires parentales pathologiques parce que sinon, on pourrait toujours me rétorquer une histoire affreuse. Mais là, je parle, chacun a une manière de mener cette autorité, mais il a besoin d'avoir parfois des éléments de compréhension. moi, quand les parents me demandent qu'est-ce qu'ils doivent faire, je ne leur dis pas ce qu'ils doivent faire. Je ne sais pas ce qu'ils doivent faire. Par contre, si je commence à prendre le temps d'apprendre à les connaître, comme on le fait au Pâte au Beurre, ce lieu d'accueil qui est gratuit, anonyme, sans rendez-vous, le parent peut venir comme il veut, quand il veut, avec ou sans son enfant, et quel que soit l'âge de son enfant, eh bien, il va s'asseoir et moi, je vais prendre le temps d'apprendre à le connaître pour commencer à voir ben finalement c'est quoi ses valeurs, comment il a envie de les transmettre et où est-ce que ça chope, enfin achoppe, pardon.
Je vous propose qu'on revienne sur ce dispositif et d'autres dispositifs qui existent sur notre territoire. Mais d'abord une petite pause musicale et c'est vous qui avez choisi Bab El Echa, ensemble nous serons.
Thank you. bien sur Fuse 107.5 FM, vous écoutez la deuxième partie de l'émission Le goût des autres.
Sophie Marinopoulos est avec nous au studio de Radio Fuse et on parle beaucoup d'enfants, mais aussi d'écran. On va parler pas mal d'écran parce que vous n'avez pas choisi cette chanson par hasard.
Oui, alors cette chanson, on va l'entendre le 15 mai, la journée du 15 mai, qui est la journée famille. C'est une journée qu'organise la mairie, le conseil municipal, en partenariat avec la communauté de communes du Pays d'Uzès, la CCPU. Donc ensemble, c'est le cas de le dire, nous allons passer une journée pour nos enfants et le soir, il y aura le concert de Bab et les chats qui nous feront l'honneur d'écouter cette chanson que les enfants sur le territoire vont apprendre. En fait, les services aux familles d'Uzès, de la CCPU, l'enfance et famille et jeunesse, sont en train de travailler dans les centres de loisirs pour que les enfants apprennent cette chanson. Et d'ailleurs, on a en projet aussi de voir que dans les écoles ou l'école de musique pourrait peut-être aussi, on construit la journée. Donc là, on est en train d'essayer de voir qui pourrait se joindre à nous. Mais c'est une chanson qui est très entraînante et qui porte des jolies valeurs. Et donc voilà, on a démarré cet apprentissage des paroles avec les enfants sur le territoire. Un territoire qui a bien décidé de prendre à bras-le-corps la question des écrans. Et donc cette journée-là, elle va être tout au long de la journée, il va y avoir des propositions, et c'est un peu des alternatives aux écrans qu'on va proposer aux enfants pour ce jour-là. Il va y avoir la petite dérouleuse, qui est une magnifique petite roulotte qui accueille les moins de 3 ans. Donc les moins de 3 ans sont concernés. Vous savez qu'ils adorent la culture, l'art et la culture, qu'ils adorent les histoires. Et donc eux aussi auront leur spectacle tout au long de la journée. Mais il y aura aussi des ateliers de nutrition, la ludothèque sera avec nous, la lecture publique sera avec nous. Il faut bien se mettre en tête qu'en fait, tout le monde va travailler sur ce sujet. Donc tous les services de la CCPU, toute la municipalité. Donc nous sommes tous un peu tendus vers cette journée et ça demande beaucoup de préparation. C'est-à-dire que là, déjà dans les centres aérés, ils sont en train d'apprendre la chanson, mais pas seulement. Ils sont aussi en train de travailler, c'est Dalia Cosseraro qui s'en occupe actuellement, ils sont en train de travailler à la mise en forme de jeux qui pourraient être des alternatives aux écrans. Ok, je ne regarde pas l'écran, mais je fais quoi ? Et donc, on est en train de faire des propositions, et je dis « on », mais ce sont les enfants qui vont nous faire des propositions, qui vont fabriquer les jeux, qui vont faire un arbre à mots. Moi, j'attends avec impatience cette création, qui va être, à mon avis, absolument superbe, qui pourra être exposée, bien sûr, à la journée du 15 mai. Ils vont aussi faire, les enfants, des sirops. On fera un petit bar à sirop à partir des herbes de notre pays, notre territoire. Donc vous voyez, ça entraîne, c'est un puits sans fond ce sujet, parce que finalement, nous sommes tous en interrogation par rapport aux écrans. Moi, je n'ai pas un seul parent qui vient me voir en consultation sans me parler des écrans. Ça n'arrive pas. Quel que soit l'âge, hein, même avec les 15 ans, les 17 ans, quel que soit l'âge, ils sont tous préoccupés par, l'usage des écrans, en fait. Donc, c'est l'occasion d'être ensemble pour en parler.
Et c'est donc dans le cadre de la semaine sans écran qui va se dérouler du 10 au 17 mai.
Voilà.
Avec donc, les écoles du territoire, notamment.
Voilà. Alors, il faut rendre à César ce qui appartient à César, c'est-à-dire que c'est sous l'impulsion des parents d'élèves de l'école Jean Massé, qui ont déjà l'année dernière, hein, ils ont de l'avance, ils ont eux déjà l'année dernière organisé cette semaine sans écran qui s'est magnifiquement déroulée avec des expériences tout à fait formidables qui a donné envie à tout le monde de les rejoindre. Et je sais que les écoles de Saint-Quentin vont rejoindre l'école de Jean Massé. Donc vous voyez, il y a ça aussi, c'est vertueux, hein, puisque du coup, alors la CCPU va suivre, la CCPU va accompagner, hein, puisque la CCPU s'est vraiment engagée pour que cette semaine sans écran puisse se faire au mieux avec la fabrication de petits livrets qui seront remis à tous les enfants. Donc voilà, il y a vraiment une dynamique territoriale qui se fait à la fois avec les élus, mais aussi avec les partenaires. Les parents d'élèves sont des partenaires, les écoles bien sûr, tous ceux qui sont la librairie qui bien sûr est toujours très présente et qui va organiser le prochain débat sur la question des écrans. Enfin, il n'y aura pas que la question des écrans, mais ça en fera partie. Enfin voilà, donc on est très nombreux à se mobiliser.
Et d'ailleurs, petite digression, Jean-Christophe Quillez, notre cher réalisateur à Radio Fuse, fait partie des organisateurs et il avait suivi ses enfants. On peut écouter le reportage sur cette semaine sans écran, encore en podcast sur notre site radiofuse.fr. Donc, on est tous là, nous aussi, évidemment, parce que le son, on sait très bien que la radio et les podcasts ont beaucoup de succès aussi, parce que je pense que ça contribue à libérer l'imaginaire, ce que ne fait pas forcément les écrans. Et justement, le 14 mars prochain, vous serez à Lombrières avec, je prends mes petites fiches,
Michel
Desmurger, auteur du crétin digital, en fait. C'est lui qui nous a parlé du crétin digital.
Et la fabrique du crétin digital.
C'est ça. Donc, c'est une rencontre avec vous-même et Michel Desmurger. J'ai dit en préambule que c'était vous qui organisiez, mais pas du tout. Hein. C'est l'association des amis de la librairie de la Place aux Herbes. Hein. Donc, comme tous les mois, ils nous proposent des soirées thématiques. Là, le thème, c'est quels enfants laisserons-nous à la planète ? Donc, vous allez échanger avec Michel Desmurger. Dites-nous comment vous avez pensé quand même cette rencontre.
Oui, peut-être juste là encore pour rappeler quels enfants laissons-nous à la planète. Donc, c'est une proposition que m'avait fait Éric de Kermel, qui est aussi quelqu'un de notre territoire, très actif sur le territoire, et qui animera ce débat, qui m'avait proposé il y a 2 ans d'écrire un plaidoyer qui s'appelle justement Quels enfants laisserons-nous à la planète ? C'est un plaidoyer qui a été porté et soutenu par un club d'entrepreneurs engagés de Terre Sauvage. Et donc, on voit que là encore, vous voyez, des entrepreneurs, Éric de Kermel, homme du territoire, présent à la librairie, etc. Bon, on est tous un petit peu sur ce sujet. Et là, oui, ça reste un titre intéressant pour ce débat, puisque Michel Desmurger, je ne l'ai pas rencontré personnellement. Je connais ses travaux. Je trouve ses travaux tout à fait passionnants. Nous avons des formations tout à fait opposées. C'est un neuroscientifique. C'est un chercheur au CNRS. Moi, je suis une psychanalyste. Donc, vous voyez bien que déjà, on n'a pas du tout les mêmes entrées. Et c'est ça que j'avais envie de provoquer. C'est cette rencontre. Parce que il a un discours absolument passionnant, extrêmement complet, qui s'appuie en effet sur des recherches scientifiques mondiales. Ça nous permet de penser. Moi, j'avais envie de m'appuyer sur ses propos pour aussi aller sur la question de mon ouvrage, ce que les enfants nous enseignent, hein, c'est-à-dire que je quitte un peu le cerveau pour rentrer sur la relation, puisque je suis moi une spécialiste de la relation, du langage, du lien au langage. Donc voilà, je pense que ça va permettre des discussions passionnantes. Alors il va sûrement reprendre un discours qu'il a régulièrement en disant que c'est pas en distribuant des ordinateurs ou des tablettes aux enfants dans les écoles qu'on va faire avancer le sujet, que les recherches scientifiques mondiales, elles ont été très claires, ça non seulement ça ne permet pas aux enfants de mieux travailler et d'avoir plus de compétences et de connaissances. Et d'ailleurs, c'est exactement le contraire. Donc, je pense que ça va être haut en couleur ce débat-là, parce que peut-être que tout le monde ne sera pas d'accord, loin de là, dans la salle. Il n'est pas contre les écrans, comme moi d'ailleurs. Il vient juste montrer comment l'écran récréatif s'est mis à dominer l'emploi du temps de nos enfants. Il montre que des enfants de moins de 2 ans sont déjà 1 heure par jour sur leur écran, moins de 3 ans, 2 heures, 3 heures par jour. moins de les primaires 5 heures par jour et les collèges ils sont déjà 7 heures par jour. Donc après il vous fait un calcul général et il vous montre ce que ça représente comme année de vie. Enfin c'est vertigineux, ça donne le vertige. Et son nouvel ouvrage, Faites-les lire, est vraiment un peu son cri d'appel en disant bah c'est une, alors moi je vais évidemment dire c'est pas la seule hein, mais c'est une des comment on dit enfin d'une possibilité
des solutions en
oui,
tout cas pour essayer de
en montrant que nos enfants perdent leur vocabulaire, ils perdent les mots. Alors il a raconté dans une conférence, je lui en parlerai sûrement, que le Club des Cinq, vous êtes pas connu, vous, le Club des Cinq et les bibliothèques roses.
J'ai lu, et La Verte.
Et La Verte, ont été réécrites pour les enfants d'aujourd'hui en enlevant 40% de vocabulaire, parce que nos enfants, c'était trop compliqué pour nos enfants d'aujourd'hui. Alors, je voudrais vraiment qu'ils me répètent cette histoire-là, ça me paraît hallucinant, qu'on a réduit la narrativité, c'était trop long pour eux, etc. Donc, et ils montrent à quel point c'est inquiétant pour la démocratie. Alors, pour moi, c'est inquiétant encore plus, enfin, et pour la démocratie, et puis aussi pour la santé globale de nos sociétés en général, de notre vivre ensemble, et puis individuellement. Et en effet, moi, je sais que les enfants peuvent savoir lire bien avant d'avoir un livre. D'ailleurs, je commence mon livre sur cette histoire de ces quatre enfants qui se sont retrouvés dans la jungle après l'accident d'avion.
Et qui ont survécu.
Amérindiens, et qui ont survécu. Et tout le monde a parlé d'un miracle, sauf le peuple amérindien qui n'était pas du tout content qu'on parle de miracle, en rappelant que leurs enfants, ils sont la forêt, ils vivent la forêt, ils connaissent la forêt. Et en effet, j'ai repris à ce moment-là une éducation d'un enfant amérindien. D'abord, ça se fait en se tenant la main. On marche en forêt ensemble. Et la main est une communication pour l'enfant. Il apprend à décrire et à comprendre le monde qui l'entoure. Il sait lire les nuages, il sait où va tomber la pluie, il connaît le mouvement de la rivière, donc il sait où aller pêcher, il lit les empreintes sur le sol des meutes, donc il va savoir les éviter. Donc vous voyez, ces enfants sont des savants. Donc il n'y a pas que les livres, hein, voilà, moi j'irai de ce côté-là, qui apprennent aux enfants, mais je pense que ça va être très complémentaire et on va sûrement avoir beaucoup de points de convergence.
Donc on rappelle, ça se passe à l'Ombrière le 14 mars à 19h.
Voilà, la CCPU met à disposition la salle de l'Ombrière parce que ça permet de dire que le territoire est engagé. Je crois que c'est très important de le dire, qu'on fait tous ensemble. Les associations, les partenaires institutionnels, on parlait de votre présence, en effet, vous qui communiquez. Donc voyez, il faut être tous ensemble pour arriver à porter des sujets aussi importants pour notre devenir.
Et ça sera aussi l'occasion aux auditeurs et aux auditrices et aux spectateurs qui viendront à l'Ombrière de vous poser des questions sur votre livre. On rappelle, votre dernier ouvrage, « Ce que les enfants nous enseignent », c'est publié au Lien qui libère. Je crois que pour 18 euros, on a de quoi s'occuper, de quoi vraiment réfléchir aussi à notre relation à nos enfants. Et vous disiez aussi quelque chose d'intéressant, si vous voulez bien on terminera là-dessus, c'est qu'en fait vous rapprochez la situation des enfants et la situation du monde, de la nature, de l'environnement.
Oui, c'est-à-dire que nous avons perdu de vue nos enfants, mais nous avons perdu de vue la planète dans laquelle nous vivons. Donc on a les deux, les mots sont les mêmes, à la fois du côté de, en effet, notre environnement et du côté de nos enfants. Donc il va falloir qu'on peut poser les questions en même temps, bien sûr faire des parallèles toujours avec prudence, mais ce sont deux sujets qui sont complètement reliés. Et puis moi je voulais terminer sur le fait que, parce que c'est quand même important pour moi, je la première fois que je suis élue, hein, je suis inexpérimentée, je suis pas élue depuis longtemps, mais je trouve que tout ce qui est en train de se faire, d'abord je suis très admirative de ce qui se passe dans les services petite enfance chez nous, je tiens à le dire parce que vous les voyez jamais, ceux qui sont à la crèche et qui prennent soin de nos enfants. On les entend pas beaucoup. Ils font un travail absolument incroyable et remarquable. Ils s'occupent de la santé de nos enfants. Donc ça, c'est une chose que je tenais à dire et à redire. Et puis aussi, tout ce qui est en train de se construire, il y a un skatepark. C'est aussi une manière de dire aux enfants, allez dehors, allez faire du sport, allez bouger, allez vous rencontrer, faites des choses ensemble. Il y a eu le parc du Duché dont je me suis occupée, il y a eu les jardins familiaux. Enfin, vous voyez, il y a la piscine prochainement. Donc, il y a vraiment une envie de porter ce territoire vers la famille, vers l'enfance et notre jeunesse.
Merci beaucoup Sophie Marinopoulos, vous viendrez nous donner la suite des événements et vous
avec
êtes
plaisir.
La bienvenue pour justement nous parler notamment de la fameuse semaine sans écran à laquelle on participera volontiers. À bientôt.
Merci beaucoup à vous, à bientôt.
C'était Le Goût des Autres, une émission présentée et proposée par Marie Fringant, à la réalisation Jean-Christophe Quillez. Vous écoutez Fuse 107.5 FM.
Pour écouter l'émission en podcast, rendez-vous sur notre site radiofuse.fr, rubrique podcast.